Bonjour, c'est Jean-Marie Marcaux sur Radio Axe pour Le Bonheur en question. Une émission dans laquelle, chaque semaine, je réponds aux questions des auditeurs. Des questions sur le bonheur que vous m'avez posées sur le site de Radio Axe ou sur les réseaux sociaux suivront un conte de sagesse et un titre de ma playlist du bonheur.
Depuis quand l'homme court après le bonheur? Ou a-t-il conscience de la notion du bonheur?
Alors, ma chère Myriam, il n'y a pas de traces préhistoriques de recherche du bonheur. On a des traces de recherche du mieux-être, par exemple, avec des fractures qui ont été réduites et soignées très tôt, il y a plus de 10 000 ans. On retrouve des expressions de l'art, donc avec des instruments de musique. On peut imaginer que la musique était accompagnée de chants. On retrouve bien sûr des traces de peinture sur les murs de certaines grottes. Mais est-ce que c'était pour du plaisir, pour le bonheur de la création, de l'expression, ou est-ce que c'était pour accompagner des rituels qui soient de vie, de chasse ou de mort, par exemple? Là, on ne le sait pas. Donc, pour être sûr, je vais m'appuyer d'abord sur l'Antiquité et sur les philosophes comme Épicure, qui a vécu entre 341 et 270 ans avant Jésus-Christ. Donc voilà, il y a un peu plus de 2000 ans, cet homme, Épicure, a écrit le premier traité, qui s'appelle la Lettre à Ménécée, qui parlait du bonheur. Donc, et pour lui, le but du bonheur, c'était le but de la vie humaine, en fait. Hein. Le but de la vie humaine, c'est le bonheur. C'est une fin parfaite, un souverain bien, d'après Épicure. Ensuite, on passe à Aristote, plus récent, avec le bonheur, qui était une activité conforme à la vertu la plus parfaite. Là, il a écrit ça dans l'Éthique à Nicomaque. Et il faut attendre les philosophes beaucoup plus modernes, comme Schopenhauer, Camus, Sartre ou Kant, pour avoir de nouveau une réflexion sur le bonheur. Par contre, eux étaient beaucoup plus pessimistes sur la possibilité du bonheur pour les êtres humains. Entre les deux, entre Épicure et Kant, on va dire, ou Sartre, c'est la morale chrétienne dans notre culture qui a remplacé finalement le bonheur par la vertu. Le bonheur, c'est donc un sujet complètement secondaire, et c'est la vertu qui est le but de l'existence. Pour cela, donc, on se rapproche plus de l'approche d'Aristote. Le bonheur, pour moi, est né avec la conscience de soi, en fait. On parle bien de la morale, hein. Je parle du bonheur et pas de morale, hein. La morale, c'est bien la distinction entre le bien et le mal. Et la morale, bien sûr, a évolué au fur et à mesure des différentes philosophies de vie ou de religion que l'on peut rencontrer. Par contre, la naissance de la conscience de soi, ça a été déjà par l'accumulation des premières connaissances. Une compréhension de nos actes, de nos pensées, de nos émotions, de nos sentiments. Ça a permis de distinguer et de repérer, en effet, que certaines actions pouvait nous apporter plus de plaisir, plus de joie, à court ou à long terme. C'est ensuite, dans cette conscience de soi, la conscience que ce sont en fait nos relations qui nous apportent le plus de bonheur. Une relation à soi, une meilleure connaissance de soi, et donc la philosophie comme aussi d'autres pratiques ont permis d'avoir une meilleure compréhension de soi, une meilleure relation à soi-même, donc une meilleure relation aussi à l'autre, une meilleure relation aussi aux autres, j'en parle souvent, et puis à notre environnement. Et donc, c'est la psychologie aussi qui a évolué au fur et à mesure, qui a travaillé sur cette notion de bonheur avec une perception immédiate du bonheur, une perception de ce qui se passe en soi, ou de ce qui se passe autour de soi. Et cette approche particulière, individuelle, de ce qui peut nous apporter à la fois du plaisir, immédiat, donc une meilleure connaissance aussi de ce que nos cinq sens peuvent nous apporter comme satisfaction immédiate à court terme, et une réflexion sur quelles sont nos actions, quelles sont nos intentions qui peuvent, en se projetant beaucoup plus loin dans le temps, donner du sens à la vie et pas simplement à l'instant, donner plus de sens à une vie plus longue et nous apporter une satisfaction, un épanouissement, un bonheur beaucoup plus profond et beaucoup plus, on va dire, efficace à long terme. Donc, depuis quand l'homme court après le bonheur, je pense que le bonheur est une notion qui est arrivée quand on a pu vivre dans des civilisations qui assuraient aussi notre survie. Dans un premier temps, c'est notre cerveau reptilien qui nous pousse à avant tout rester en vie. Et pour moi, la survie, ce n'est pas du bonheur. Ce qui apporte du bonheur, c'est quand on porte cette fois-ci, quand on se sent à la fois en sécurité, quand on se sent reconnu, quand on se sent acteur de sa propre vie, alors on a une ouverture vers l'autre et un épanouissement, une sagesse qui nous permet de mieux savourer la vie que nous avons. Et c'est peut-être cette conscience de la notion de bonheur qui nous distingue de l'animal, qui est très heureux, qui peut connaître aussi le plaisir, la satisfaction de ses cinq sens, la satisfaction de ses besoins, de ses instincts, qui le poussent en effet au-delà de l'individu à réagir comme le groupe. Mais pour moi, cela n'est pas du bonheur, et c'est ce qui nous distingue en effet de l'animal. Nous avons une conscience qui nous permet de pouvoir donner du sens à notre vie et pouvoir vivre un bonheur chronique.
Est-ce que vraiment les gens ont envie d'être heureux ?
Alors merci pour cette question. Avant tout, mon cher docteur Saad Rouag, et donc c'était pendant cette consultation que vous me posiez cette question en me faisant remarquer que finalement les gens se plaignent mais ne font rien pour améliorer leur sort, ils ne mettent pas en œuvre ce qui pourrait vraiment les rendre heureux. Et c'est une question voilà, qui vous taraude et à laquelle j'ai vraiment un grand plaisir de proposer mes modestes réponses. Alors je pars du principe, moi, qu'il y a finalement deux grandes catégories de personnes. Ceux qui croient au bonheur, et pour eux, oui, vraiment, ils ont très envie d'être heureux, ils croient au bonheur, ils croient à cette possibilité de bonheur. Et puis ceux qui n'y croient pas, et je pense que pour eux, en effet, si on ne croit pas au bonheur, eh bien on ne va pas forcément avoir envie d'être heureux. Croire au bonheur, ne pas croire, on parle bien ici de croyance, et la croyance, c'est bien ce qui nous distingue aussi de la science. Finalement, la science permet de vérifier, et puis la science évolue, bien sûr, mais les croyances n'ont pas besoin de vérification, finalement. On croit parce qu'on a toujours cru, on croit parce qu'on est plusieurs à croire à la même chose, et donc nos croyances ne font que se renforcer par la répétition, ne font que se renforcer par le partage, et par donc une vision particulière de la réalité qui fait qu'on va interpréter la réalité sous l'éclairage de notre croyance. Vous parliez des personnes qui se plaignent, donc on parle aussi ici finalement de cette position de victime. Est-ce que vraiment les gens ont envie d'être heureux ? Est-ce que finalement cette position de victime, est-ce qu'elle n'est pas à l'origine aussi de ce manque de recherche du bonheur ? Probablement, en sachant que quand on est victime, eh bien, on vit un paradoxe. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'expression d'une souffrance, et loin de moi, en effet, de blâmer quelqu'un qui se sent victime ou une victime, quel que soit son persécuteur. Mais en même temps, le paradoxe, c'est que la position de victime, c'est une position de souffrance et de confort. Pourquoi de confort ? Ben parce qu'en effet, si on est victime, eh bien, on n'a pas la responsabilité de ce qui nous arrive. Mais ça veut dire aussi qu'on n'a pas le choix aussi, qu'on n'assume pas sa propre responsabilité et que finalement, la position de victime est souvent la position qui empêche de se mettre en action. Et ça me fait penser aussi à cette phrase qu'on entend souvent, voilà, de quelqu'un qui va vous dire « Mais cette personne, je ne comprends pas, elle a tout pour être heureuse. Pourquoi n'est-elle pas heureuse ?» Ben, d'abord, cette réflexion, c'est un jugement qui est certainement parcellaire, c'est-à-dire que c'est le point de vue de l'observateur. C'est bien un observateur qui juge, en effet, suivant ses propres critères, et qui sont souvent des critères extérieurs, que la personne qui pourtant a tout ce qu'il faut pour être heureuse n'est pas heureuse. Les critères de tout pour être heureux sont souvent des critères qui sont liés à ce qui est visible, ce qui est extérieur, ce qu'on appelle aussi les pièges du bonheur. C'est-à-dire, on va dire, cette personne est très riche, pourquoi n'est-elle pas heureuse ? Cette personne a d'énormes conquêtes sexuelles et pourtant elle n'est pas heureuse. Cette personne a beaucoup de pouvoir et pourtant elle n'est pas heureuse. Cette personne est célèbre ou cette personne est très belle et pourtant elle n'est pas heureuse. Parce que, en effet, tout ça, ce sont des pièges qui nous éloignent finalement du bonheur. Et ça me renvoie à une phrase dont je ne connais pas l'auteur, j'aimerais beaucoup le savoir, mais en tout cas, cette phrase, moi, me touche énormément. Et elle m'aide à ne pas porter de jugement sur les personnes que je vais rencontrer. Cette phrase est celle-ci. Quand on croise quelqu'un, on ne sait pas ce que cette personne traverse. On ne peut pas se mettre à sa place. On ne peut pas comprendre ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, parce qu'on ne peut pas vivre exactement sa vie, parce qu'on ne peut pas avoir vécu non plus sa vie. Et comme dirait Rosenberg, le créateur de la communication non violente, lorsque quelqu'un fait ou dit quelque chose voilà, qui ne nous convient pas, qui nous choque, eh bien, pour cette personne, à ce moment-là, c'est ce qu'elle peut faire de plus merveilleux. Ceci pour dire, en effet, que voilà, si les gens n'ont pas envie d'être heureux, peut-être que c'est juste une impression, peut-être qu'ils ont envie d'être heureux, mais s'y prennent de façon maladroite ou de façon différente, en tout cas, de nous. Et ce que l'on peut dire aussi, puisque vous êtes médecin, docteur Rouag, c'est que, lié à la santé, on a remarqué, en effet, que finalement, les personnes étaient beaucoup plus heureuses après un problème de santé, après souvent un grave problème de santé, parce qu'il y avait, en lien avec la question précédente, une prise de conscience, une recherche de sens de la vie, un grand ménage dans ce qui est vraiment essentiel et dans ce qui était superficiel ou anodin dans sa vie, et qui permettra à cette personne d'avoir envie d'être heureuse et de briller et d'illuminer autour d'elle. Le serpent et la luciole. La légende raconte qu'un serpent poursuivait une luciole pour la dévorer. Le petit insecte faisait l'impossible pour échapper au serpent. Pendant des jours, c'était une persécution intense. Au bout d'un certain temps, la luciole, fatiguée, épuisée, s'arrêta et dit au serpent « Je peux te poser 3 questions ?» Le serpent lui répondit « Je n'ai l'habitude de répondre à personne, mais comme je dois te manger, tu peux demander. » Question numéro 1. « Est-ce que j'appartiens à ta chaîne alimentaire ?» demanda la luciole. « Non, » répondit le serpent. Question numéro 2. « Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal ?» dit la luciole. « Non, absolument, » a répondu le serpent. Question numéro 3. « Alors, pourquoi veux-tu me manger ?»« Parce que je ne supporte pas de te voir briller. » La morale de cette histoire, c'est que, à plusieurs reprises, vous rencontrerez des personnes qui vous critiquent, vous condamnent, vous étiquettent, bien que vous n'ayez jamais rien fait de mal envers elles. Et bien que vous vous soyez toujours montré gentil pour elles. Et tout cela arrive parce que, tout comme la luciole, vous possédez votre lumière intérieure. Vous illuminez votre chemin et le chemin de beaucoup de personnes qui marchent dans l'obscurité. Vous brillez plus que les autres, comme la luciole la nuit. Et c'est difficile à supporter pour certaines personnes parce qu'elles n'ont pas cette lumière intérieure qui scintille et souffrent de vous voir briller. N'arrêtez jamais d'être vous-même, d'éclairer avec votre lumière. même si cela agace ceux qui vivent dans l'obscurité totale. Les serpents qui mangent les lucioles ne comprennent pas qu'ils restent dans l'obscurité pour toujours. C'était Jean-Marie Marcos pour Le Bonheur en question. N'hésitez pas à me poser des questions sur le site de Radio Axe ou sur les réseaux sociaux. Je vais maintenant partager un titre de ma propre playlist du bonheur. Mais auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h sur Radio Axe. Et d'ici là, soyez heureux. Following